Sable. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 9h moins quart, Esprit Libre avec comme chaque mardi Lucie Robquin des Échos. Bonjour Lucie.
Bonjour David.
Et Christophe Barbier qui vient de publier Moi Je. Moi.
Non, je pourrais essayer, je vous le promets, je vais faire un effort.
C'est pas le même genre.
Oh, moi Jean-Luc Mélenchon, je répète. Christophe Barbier qui vient de publier Moi Jean-Luc Mélenchon chez Grasset. C'est important pour la suite de notre discussion, je le précise. Mais on va commencer d'abord avec le Royaume-Uni, dont le Premier ministre Rishi Sunak a affirmé hier qu'il était prêt à appliquer le projet de loi visant à expulser vers le Rwanda les migrants illégaux arrivés en Grande-Bretagne. Il assure même que le premier vol partira d'ici à 12 semaines. Pragmatisme ou sous-traitance au Rwanda du problème migratoire? Je parle de sous-traitance parce que le Rwanda sera payé pour accueillir ces migrants illégaux.
Lucie. Oui, c'est une forme de sous-traitance. Hein. C'est assez cynique, hein, puisqu'on s'apprête à envoyer des migrants, un peu comme on envoie les déchets en Afrique. Le grand pari du Royaume-Uni dans cette histoire, c'est de dissuader tous les migrants de converger vers le Royaume-Uni. Si un Afghan se retrouve au Rwanda aussitôt qu'il a touché le sol britannique, bah autant vous dire que ses amis n'idéaliseront plus le Royaume-Uni. Alors évidemment, ça pose des questions éthiques. Hein. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des migrants au Rwanda alors que c'est un pays qui est considéré par beaucoup comme non sûr? La seule expérience qui a été menée de cet ordre-là, c'est l'Australie, qui avait envoyé beaucoup de migrants en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 2000. Ça avait conduit à une vague de suicides dans les centres offshore. Donc voilà, la question mérite d'être posée. La deuxième question, c'est celle de l'efficacité. Le Royaume-Uni, vous l'avez dit, va verser un demi-milliard de livres pour envoyer 300 migrants au Rwanda. C'est absolument considérable et c'est seulement 1% des personnes qui arrivent par la Manche au Royaume-Uni. Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux donner cet argent aux pays d'émigration qui tenteront de dissuader leur jeunesse d'émigrer? Voilà, la question mérite d'être posée.
Moi, je suis très choqué par cette mesure. Même si elle était dissuasive, je ne le crois pas. On ne peut pas comme ça payer un pays pour lui envoyer des migrants dont on ne sait trop quel sera le destin, suicide, évasion ou je ne sais quel mauvais traitement. C'est quand même de la traite des êtres humains à l'envers. Mm-hmm. On paye plus pour les acheter, on paye pour s'en débarrasser. Ça n'est pas acceptable. Malgré la détermination de Sunak, poussée par l'aile droite de son parti, hein, puisque c'est Johnson qui avait enclenché tout cela, malgré la bonne volonté du Rwanda qui veut prendre l'argent... Et en effet, les sommes sont colossales. On ne peut pas accepter ça. Bien sûr, il faut lutter contre l'immigration. Il y a trop de migrants qui viennent. On ne contrôle plus ça. Nos sociétés sont mises en péril. On n'arrive plus à intégrer. Que faut-il faire? Payer, oui. Mais payer des pays au sud de la Méditerranée pour qu'ils bloquent les migrants et qu'ils assurent leur retour vers leur pays d'origine.
On a payé la Turquie, par exemple.
Par exemple, on a payé plusieurs milliards d'euros.
On va peut-être payer l'Égypte.
On va payer l'Égypte. On va, avec le pacte migratoire qui a été mis en place, on va devoir installer ce qu'on appelait jadis des hotspots en bon français. Enfin bref, des points de contrôle avant que ces migrants franchissent la Méditerranée et risquent leur vie, puis arrivent chez nous et se diluent dans la clandestinité. Avant qu'ils aient fait ce voyage, on va payer des pays pour les bloquer. Les bloquer et les renvoyer chez eux. Si Sunak avait mis en place un programme ambitieux et coûteux de retour à la maison, vous êtes venu chez nous illégalement, on vous ramène chez vous. On fait un bras de fer diplomatique avec votre pays s'ils ne veulent pas vous accueillir, mais vous retournerez chez vous. Votre place, votre avenir n'est pas ici. Je le comprendrais, mais s'en débarrasser ainsi, ça me choque.
Lucie Robquin, vous disiez que ça va dissuader un certain nombre de candidats à l'immigration légale ou illégale d'aller en Angleterre, mais si ça les dissuade, ils vont rester en France, parce qu'ils passent par la France, les candidats à l'immigration.
Oui, tout à fait. Ça va être une compétition entre pays européens. C'est assez terrible. La Suède, il y a quelque temps, avait dit « Je veux que le pays devienne l'enfer des migrants pour qu'ils aillent effectivement ailleurs. » Ce qu'on voit, c'est que le modèle britannique fait des émules ailleurs en Europe. L'Italie veut faire de même avec l'Albanie. Elle enverra ses migrants en Albanie, moyennant de l'argent. L'Allemagne veut faire de même. C'est dans le programme de la CDU, hein, qui est le parti d'Angela Merkel. C'est également le cas de l'Autriche. Et c'est dans le programme officiel du Parti populaire européen, qui rassemble tous les conservateurs européens.
Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on s'indigne là tranquillement parce qu'il y a de l'argent en jeu, mais finalement, on est confronté au pragmatisme légendaire historique de la Grande-Bretagne?
Oui, c'est possible. Après, de l'argent en jeu, évidemment, il y en a. La France a essayé de dissuader le Maroc hein, d'envoyer ses migrants en France avec beaucoup d'argent. On voit, Christophe, que ça n'a pas bien marché. Donc, cette idée de donner beaucoup d'argent à un pays pour les dissuader ne fonctionne pas totalement. Il va falloir en rediscuter avec ces pays-là. Il faut que ça se fasse à l'échelle européenne.
Attendez, il y a quand même des pays qui sont candidats à ce marché, hein, même si vous estimez,
mais
Christophe, que c'est un marché indigne.
Ils ne sont pas candidats.
Le Rwanda, qui donne de grandes leçons de morale à la France, est prêt à faire faire de l'argent sur le dos des migrants.
Mais si ces pays nous disaient, nous sommes en sous-population, oui, on veut bien prendre des migrants pour les mettre dans nos campagnes, dans nos déserts, bah, à la limite. Mais là, c'est l'argent qui les motive. C'est l'argent, c'est pas l'amour des migrants. Donc on n'est pas dans le pragmatisme, on est dans le cynisme. Encore une fois, quelqu'un qui vient chez nous illégalement ne doit pas rester, mais s'il doit retourner quelque part, c'est chez lui. C'est pas être envoyé vers quoi ? Vers quoi ? Et un jour, si les Russes nous disent, mais on a de la place en Sibérie, envoyez-nous vos migrants, mais payez, on le fera aussi. Non, c'est pas possible.
Autre sujet qui consiste à acheter une solution, au lieu de lui trouver une solution équitable, si j'ose dire, c'est la SNCF qui vient de passer un accord avec les cheminots pour aménager les fins de carrière de certains de ces cheminots, de certaines catégories de personnel. Les cheminots occupant un poste pénible comme les conducteurs ou les aiguilleurs pourront entamer une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, avec 15 mois travaillés rémunérés à 100% et 15 mois non travaillés rémunérés à 75%. Pour les contrôleurs, le dispositif est encore plus avantageux, avec une cessation d'activité s'étalant sur 36 mois, dont 18 mois non travaillés, rémunérés à 75%. J'ai lu ça dans un journal ce matin que j'oublie de citer parce que j'ai oublié de noter ce journal. Il faudra m'en excuser.
Les Échos.
Mais enfin, c'est probablement les Échos ou autres. Mais enfin, là, on est face à un contournement de réforme des retraites flagrant.
Mais oui. C'est une bonne nouvelle. Les ponts du mois de mai sont sauvés, David. Il n'y aura pas de grève. Les Jeux Olympiques sont sauvés.
Ah bah,
quelle grande nation que la France. Ah bah évidemment, ça coûte cher. Bon bah alors, c'est pas grave. Les contribuables vont payer par les impôts. Les consommateurs, les usagers du train vont payer. Oui, c'est évidemment très choquant. Alors, on peut faire une suggestion au patron de la SNCF. Pour que ça ne coûte rien aux contribuables et aux ceux qui prennent le train, les tarifs sont déjà élevés, eh bien qu'ils diminuent les salaires de la SNCF pour financer cette réforme. Je ne suis pas sûr d'être entendu. Mais bon, c'est évidemment une boutade.
Tranquillement dans les jours qui viennent.
C'est pour ça que personne ne dira rien. Les passagers des trains n'ont pas envie d'avoir d'ennuis, ils n'ont pas envie d'avoir de grève. Les politiques ont sauvé la paix sociale et sauvé les Jeux Olympiques. Et la SNCF aussi est tranquille pour des mois.
Lucie Robquin, vous pouvez sauver quelque chose dans cet accord ou pas ?
Non, cet accord est assez honteux puisqu'il annule l'essentiel des avancées obtenues vraiment difficilement l'an dernier sur le front des retraites. L'accord est tellement généreux qu'il a été signé par la CGT, ce qui, il faut le dire, est assez rare dans l'histoire de la SNCF. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'accord ne choque pas dans les entreprises privées. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui envoient leurs salariés prématurément à la retraite. Ce qui choque, c'est que c'est une entreprise publique et qu'effectivement, les contribuables épongent des milliards de dettes chaque année de la SNCF et que par ailleurs, le prix des billets ne cesse d'augmenter. En ça, il aurait fallu que ce débat soit porté, y compris au niveau de l'État. La direction de la SNCF ne devrait pas pouvoir prendre cette décision toute seule. Et sachez que, enfin voilà.
Me demande si l'État lui l'a pas encouragé à la prendre en disant bon, allez-y, là, les ponts, les Jeux Olympiques.
Alors, les ponts...
je suis vraiment dans une supposition.
Les ponts de mai sont peut-être sauvés sur les rails, ils seront pas sauvés dans les airs. Vous avez vu que les contrôleurs aériens vont faire une grève massive jeudi.
Oui, mais les contrôleurs aériens, ils font jamais grève, donc c'est exceptionnel.
Oui, tout à fait. Voilà. Non, voilà, les contrôleurs de train, je pense, ont donné de belles idées aux contrôleurs aériens, et je pense que le bras de fer social n'est pas terminé, il ne fait que commencer.
Et vous voyez notre ton grinçant là, on est un peu ironique. Ça dit à quel point il y a un malaise dans le débat social.
Ouais, c'est vrai. On ne devrait pas être ironique et on l'est quand même parce qu'il y a quand même un ras-le-bol. Ouais. Je me fais quand même l'avocat du diable. Plusieurs syndicats allemands, vous savez qu'en Allemagne, il y a des grèves aussi, c'est arrivé. Il y a eu gros mouvements sociaux cet hiver. Et certains syndicalistes allemands disaient, voyez, les Français, eux, ils savent gérer le rapport de force. Pour que les Allemands citent nos syndicats en exemple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que les syndicats français savent aussi défendre leur clientèle.
Oui, mais c'est-à-dire que les Allemands comme les Français ont perdu le sens de l'intérêt général. On pense à la corporation, je suis contrôleur, je suis cheminot. On ne pense pas à l'intérêt supérieur du pays. Alors, je comprends que les gens n'ont pas envie de se sacrifier parce qu'il faudrait sauver l'intérêt général du pays. Mais c'est une donnée, l'intérêt supérieur de la nation, qui a complètement disparu de la préoccupation des partenaires sociaux, patrons et syndicats.
On termine avec Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que je parlais de votre livre, pas moi je, mais moi Jean-Luc Mélenchon, le livre de Christophe Barbier paru chez Grasset, Jean-Luc Mélenchon qui tenait hier une conférence à Sciences Po Paris, après avoir été interdit de réunion publique à l'université de Lille 3, dans le discours qu'il a tenu en pleine rue à Lille jeudi dernier, il a comparé le président de l'université de Lille, qui avait interdit la réunion, aux fonctionnaires nazis Eichmann. On écoute l'insoumis.
« Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, Il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté.
Ah, vous voyez, Mélenchon aussi il parle du quoi qu'il en coûte, mais c'est pas le même. Sortie de route, provocation ou stratégie du chaos?
Ah, stratégie du chaos pour moi. Tout ce qui fait tension dans la société, tous les écarts de langage, type cet homme c'est Eichmann et en même temps c'est un brave homme, tout ce qui peut dresser les Français les uns contre les autres, Mélenchon joue dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un politique, c'est un révolutionnaire. Et que la révolution, ça se fait par le chaos, du chaos jaillira la lumière. Ce n'est pas en allant à la fac de Lille ou en allant à Sciences Po que ses résultats électoraux vont augmenter. S'il veut mobiliser les quartiers très populaires, s'il veut mobiliser les quartiers sur la donnée palestinienne,
mais il vise aussi les étudiants
islamiques, hein. Il faudra qu'il aille ailleurs. Les étudiants qu'il voit à Sciences Po ou à Lille, ils sont déjà acquis à LFI depuis des années, ils militent. Pour soulever ces masses populaires nouvelles des banlieues, il faudra qu'il y aille sur place. J'apprends que peut-être LFI va faire des meetings en bas des tours, dans les quartiers. On va voir à ce moment-là comment il est reçu.
Oui, attention à ne pas sous-estimer les succès de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ça reste pour le quart des Français la personnalité qui incarne le mieux l'opposition à gauche. Donc je pense qu'il ne faut, pas méconnaître.
La radicalité prend.
Exactement. Je vous conseille le livre de Christophe Barbier, « Moi, Jean-Luc Mélenchon », ça vient de paraître chez Grasset. Nous allons nous quitter, cher Christophe, chère Lucie, avec un chanteur belge disparu un 23 avril 2022, Arnaud. On lui doit l'une des plus jolies chansons qu'un fils puisse dédier à sa maman, « Dans les yeux de ma mère ».
Il y a toujours une lumière, oh, dans les yeux de ma mère. Il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours